pour notre formation. Okay. Merci à vous.
On y va. Je vais vous parler des soins palliatifs.
Ah ben, il faut qu'elle s'assoie.
C'est un sujet un petit peu d'actualité aussi, quand on va faire nos choix pour notre futur président de la République, savoir un petit peu aussi ce qu'il en pense. En tant que chrétien, nous, en tous les cas, c'est un sujet qui nous interpelle. Je vous parle des soins palliatifs. Alors, je vais prendre les choses dans un bout, mais il y aura plein de questions après. C'est des choses que je n'ai pas abordées, des questions qui vous titillent et auxquelles je n'aurais sûrement pas répondu parce que le sujet est aussi passionnant que vaste. Il ne faudra pas hésiter, pour moi, des questions. Et dites-moi aussi si je ne parle pas assez fort. Vous pouvez avoir et j'essaierai de tirer un peu sur la porte. Donc, des soins palliatifs, le patient en cœur et au cœur. Vous allez comprendre au fil du déroulé. Je suis obligée de faire un petit peu d'explication, de rappel aussi qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs, on en parle, mais voilà. Que sont réellement ces soins?
Est-ce que tu peux téléphoner à Xavier pour le caméra? Il ne me répond pas.
Coordonné et pratiqué par une équipe pluridisciplinaire. Le soin palliatif, c'est tout sauf quelque chose de passif. On arrive au bout d'une prise en soin et on met les gens en soin palliatif, un peu cette image de mouroir. Les soins palliatifs, c'est pas ça. C'est vraiment des soins où on s'adapte aux patients, des soins actifs. La spécificité des soins palliatifs, c'est qu'on a une approche globale. Une approche globale, c'est ce qu'on appelle le concept de souffrance globale, qui a été développé par Siskey Sanders, qui est un médecin qui est précurseur en soins palliatifs dans les fins des années 1900. C'était pris en charge de cette douleur globale qu'on a traduit en français plutôt la souffrance globale, qui englobe la douleur physique, mais aussi la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Cette notion de spiritualité n'a été introduite que très tardivement en France. Pour donner un repère, en 2002, la loi Kouchner, on avait considéré que le côté spirituel appartenait à la
société. Il faut qu'elle s'assoie. Docteur Marie, il faut qu'elle s'assoie parce que pour l'instant, on ne voit que ses mains. On ne voit que sa tête. On ne voit pas du tout sa tête.
Ça y est, c'est OK.
La spécialité médicale. On a des faits tout récents.
D'accord, merci. Elle est debout, alors on voit rien.
Une approche globale et à la fois individualisée, c'est-à-dire spécifique à chacun, à chaque patient.
D'accord.
Les soins palliatifs cherchent à éviter les investigations d'espionnage et se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Donc ça, c'est une définition assez large de l'OMS. J'aime bien ce schéma parce qu'il parle un petit peu quand est-ce qu'on intervient. Est-ce que les soins palliatifs, on intervient complètement au bout de la prise en soin, on n'a plus de possibilités curatives, hop, on vous bascule en soins palliatifs. Non. Les soins palliatifs, on apparaît de plus en plus précocement dans les prises en soin. C'est-à-dire, lors de la prise en charge, par exemple, d'un cancer, on va vous parler de certaines lignes de chimiothérapie, de radiothérapie, et puis on va commencer à parler aussi des soins de confort. Le soin de confort, c'est un début finalement des soins palliatifs. Palliatif, c'est pallier une fonction. Palliatif, c'est intéressant, ça vient du mot pallidum, qui veut dire manteau. Cette personne qui arrive avec une maladie grave évoluée, qui est souvent un petit peu à nu, dans plusieurs dimensions, voilà. Soins palliatifs, on va arriver pour entourer ce patient et l'accompagner. Donc on a parlé très précocement. Et aussi, on est aussi spécialisé dans l'accompagnement des familles, des proches, parce que maintenant, en famille, c'est plutôt proche. Hein. On a les cellules familiales, mais ce sont plus les cellules des vivants. Et du coup, on intervient pour accompagner les proches aussi dans la prise en soin. Ça fait partie de notre travail. Et on travaille aussi avec les deuils. Donc, on a amené aussi à revoir des familles qui auraient des pathologies, des deuils, j'aime pas trop ce terme pathologique, mais des deuils un peu plus compliqués. On est aussi formé à cet accompagnement-là. Mais qu'on commence en fait aussi dans la prise en charge du patient et de la famille quand ils sont dans le service. Les soins palliatifs en France. Les soins palliatifs, alors on sait que Les températives, ça peut être différent d'un pays à l'autre. Hein. Il y a des cultures différentes, des lois différentes, du fait, et donc des températives différentes. En France, notre mouvement, il est porté par la SFAP, Société française d'accompagnement et soins palliatifs, SFAP, qui réunit tous les soignants en soins palliatifs adhèrent à la SFAP, et c'est vraiment un mouvement qui fédère en France. Le mouvement de soins palliatifs en France s'appuie sur trois points. Un choix philosophique déjà, on considère que la mort est un phénomène normal, naturel. Donc ça exclut, non, ça n'exclut pas le discrimination raisonnable, mais si ça peut exclure le discrimination raisonnable. Une position éthique, le respect inconditionnel de la personne considérée dans sa globalité. Donc là, le respect inconditionnel de cette dignité, donc exclut de l'euthanasie. Et une position pratique, c'est-à-dire que concrètement, notre objectif, c'est de répondre au mieux aux besoins de la personne à travers de ce qu'elle nous donne à voir dans la prise en charge. Et ça, c'est les trois piliers sur lesquels se reposent les soins palliatifs en France et notre pratique de soigner. Quelle que soit notre religion, quel que soit l'hôpital public, l'hôpital privé, on est vraiment sur ce genre de prise en charge. Alors, je vais vous aborder un petit peu le côté légal, parce que ça fait partie de notre travail au quotidien, et on est régi par des lois spécifiques aux soins palliatifs. Donc, il y avait une première loi qui s'appelait la loi Léonetti, qui était en 2005, et aujourd'hui, c'est plutôt la loi de 2016, donc la loi Claeys-Leonetti, qui a éclairci certains points de la loi Léonetti, et qu'on en repense. Donc, ça, si vous avez des questions derrière, on en discutera. Une des premières choses, c'est lutte contre l'obstination déraisonnable. En France, on a le mouvement des soins palliatifs, on est contre ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire que l'équipe médicale, le médecin, a le droit de pratiquer ou de ne pas pratiquer des actes ou des traitements qui peuvent paraître inutiles, disproportionnés, ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Je vais donner des petits exemples concrets, c'est pas parlant. Récemment, on a des exemples assez récents que j'ai en tête. Une patiente qui avait une leucémie en phase terminale, chronique en phase terminale, et il avait été dit que en hématologie, donc arrêt des chimiothérapies, possibilité de transfuser uniquement, avant c'était uniquement selon les bilans biologiques. C'est-à-dire, on faisait une prise de sang toutes les semaines. On regarde le chiffre d'hémoglobine, on transfuse ou on ne transfuse pas. Arrivé en soins palliatifs, en accord avec la patiente, la famille, on se dit, écoutez, on voit comment vous êtes au jour le jour. Si un jour vous avez des signes d'essoufflement, de douleur thoracique, vous vous sentez plus fatigué, on pourra s'autoriser à transfuser s'il y a certains signes, mais je ne vais pas vous faire une coupe de sang tous les 6 jours pour en attendre 3. Vous voyez ? Donc c'est une approche différente, une très clinique en soins palliatifs. Clinique, c'est-à-dire l'examen clinique, l'étude du patient, la clinique que faisait un peu, pas dire nos grands-pères, mais en tous les cas, on est une spécialité qui est très clinique, ce qui ne nous empêche pas de faire des imageries si besoin, de faire des scanners, des radios, des échographies s'il y a besoin, bien entendu. Un autre exemple d'une autre patiente, une dame qui a une alimentation par sonde de gastrostomie, c'est-à-dire un orifice au niveau de la peau, à boucher à une tubulure et on passe de l'alimentation artificielle par cette sonde. C'est une dame qui est démente évoluée sous une maladie d'Alzheimer, qui a fait un AVC, qui est hémiplégique, aphasique, elle ne peut plus s'exprimer, et elle a un cancer du côlon. Le chirurgien a enlevé le cancer du côlon, une partie en tous les cas de ce qu'il a pu, et il a posé cette sonde sans trop en informer la famille d'ailleurs. Cette dame se dégrade grandement et ne supporte pas cette alimentation qui lui donne des nausées, des régurgitations avec des risques d'infection pulmonaire, que les régurgitations passent au niveau des poumons. Et bien là, on peut se poser la question, est-ce qu'on continue l'alimentation, une dame de 95 ans, est-ce qu'on continue l'alimentation qui lui est délétère sur le temps de vie qui reste à vivre, ou est-ce qu'on s'autorise à arrêter cette alimentation pour ne pas rajouter des années ou des jours à la vie, mais de la qualité à ce temps qu'elle va avoir d'interaction avec sa famille. Quelqu'un qui est nauséeux va être beaucoup moins souriant, beaucoup moins dans l'interaction, que quelqu'un qui est plus confortable pour vivre ses derniers jours avec sa famille. s'autorisait à arrêter l'alimentation artificielle, qui depuis la loi 2005, donc la loi de l'été, est considérée comme un traitement. Il faut l'arrêter au même titre qu'un traitement. Donc voilà un petit peu, de ne pas être juste qu'au boutisme, mais finalement, bah, se poser les questions d'un point de vue éthique, d'un point de vue justice, et puis ce que souhaite le patient. S'autoriser en fait cette flexibilité. Deuxième point intéressant aussi, les directives anticipées. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Les directives anticipées, c'est l'expression privilégiée de la volonté du patient. C'est-à-dire, les directives anticipées, si vous pouvez vous exprimer, elles ont une valeur, puisqu'on va vous demander ce que vous voulez. Par contre, le jour où vous avez une pathologie qui ne vous permet plus de vous exprimer, bah, vous avez la possibilité aujourd'hui, tout à chacun, d'écrire vos directives anticipées, c'est-à-dire de dire ce que vous souhaiteriez en fin de vie ou ce que vous ne souhaiteriez pas. Et ce qui est important sur la loi de 2016, c'est que, versus la loi de 2005, c'est très important, c'est que maintenant elle s'impose aux médecins. Avant, le médecin devait juste les consulter. Aujourd'hui, elle s'impose à nous. Quelqu'un a écrit quelque chose qui peut être plus ou moins cohérent par rapport à la situation véritable, elle s'impose aux médecins. Donc, c'est une réponse que moi, personnellement, je trouve assez politique, cette modification de la loi. Parce qu'effectivement, elle est garante, si tant est, il fallait être garante de ça, que le médecin écoute le patient. Mais elle impose aussi au médecin, finalement, de se dire, dans cette relation de confiance médecin-patient, aujourd'hui, on est obligé d'imposer au médecin de respecter ses directives anticipées au cas où il ne respecterait pas ce que voudrait le patient. Alors, on est quand même dans une relation de confiance, où José Ferrer, on est là pour écouter le patient, vous voyez. Donc, ce côté d'imposer a quand même, sur la relation médecin-patient, elle est, voilà, elle est pas anodine. Les directives anticipées prévalent sur tout autre avis. C'est-à-dire, vous pouvez mettre, j'ai envie de vivre au maximum, et s'il y a besoin, je fais une trachéotomie, donc je sais pas, j'ai un problème, un cancer ORL, pour m'en mettre une famille ici pour pouvoir respirer. Je vais aller jusqu'au bout, je vais voir mes petits-enfants, hop. Et puis le jour voulu, bah, votre fille va dire non, j'ai jamais vu ça. Ça a été écrit, ça prévaut sur la vie de la famille. Parce que c'est censé être le représentant le plus fiable de ce qu'aurait voulu le patient. Bon, c'est directement anticipé. Avant, ça avait une durée de validité, elle n'a plus de durée de validité. Il est conseillé de les mettre à jour. Forcément, notamment sur une pathologie qui est rupture de notre vie, il y a des complications qui peuvent commencer à s'affiner et des risques de certains détresses respiratoires. Si vous parlez que de surréjouissance, au bout d'un moment, ça va être. Donc ça s'affine avec la pathologie finalement. C'est pour ça qu'il est conseillé aussi de pouvoir les écrire, pourquoi pas avec son médecin généraliste, quelqu'un qui va vous aider aussi dans la rédaction. Et puis il y en a qui les écrivent, mais qui ne disent pas qu'ils le sont écrits. Alors du coup, il faut les retrouver. Donc il est conseillé soit de les mettre dans le dossier médical de personnalité, soit de les laisser chez son médecin généraliste, ou en tout cas de signaler avec un terme de famille, je les ai rédigés. Et si on se rend compte que le décès, c'est dommage. Il y a différents modèles. C'est très large en fait. Il suffirait de mettre des identités et voilà. Ce que je vous invite, il y a des modèles qui sont bien faits sur servicepublic.fr. Nous, on en a dans le service. Mais il n'y a pas de modèle typique qui vont faire que ça va être validé ou pas. Quoi. Même sur un papier libre, je ne souhaite pas être réanimée, je ne souhaite pas avoir de gastrectomie, des cheveux. Et c'est vrai que plus c'est affiné, plus c'est facile. Je ne souhaite pas, quand j'ai déjà pu voir, être un légume. Moi, ça va me parler la notion de légume, vous voyez. Donc, plus ce sera affiné, mieux c'est pour en fait 2 ans. De confiance. La personne de confiance, c'est quelqu'un que vous pouvez nommer, donc un parent, un proche, même le médecin traitant. C'est une personne qui va vous accompagner dans vos démarches, vous assister lors des rendez-vous médicaux. Si un jour vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, on va demander à la personne de confiance. Pendant, vous pouvez prendre votre meilleur ami. Et si elle est désignée comme personne de confiance, l'avis de votre meilleur ami sera pris en compte avant celui de votre ligne. Parce que la personne de confiance, on considère qu'elle a échangé, elle a été nommée par le patient, et puis il y a des choses qui ont probablement été dites. C'est important ce que je dis, ça peut paraître un peu hiérarchie, mais c'est notre quotidien en fait. C'est-à-dire que des personnes peuvent tous s'exprimer, et nous, notre souhait, c'est de respecter leur singularité et ce qu'ils auraient voulu. Donc on cherche vraiment ces informations, à savoir un peu qu'aurait voulu la personne. Donc on a ces outils-là qui ne sont pas parfaits, mais qui nous aiguillent dans notre quotidien. Désigné par écrit, révocable à tout moment, je me fâche avec ma meilleure amie, je pars en feuille, on n'en parle plus, on ne plus une autre personne. Rendre compte de vos volontés. Pas de limite de validation, si vous l'avez fait il y a 10 ans et en plus de papier, sauf si on nous dit que je suis fâchée à mort, peut-être qu'on est un peu souple, hein, mais voilà. Donc, loi Lemnitzi. Donc là, dans ce que je vous ai présenté, directive anticipée, personne de confiance, c'est savoir voilà, ce que la personne aurait voulu concernant sa fin de vie ou ce qu'elle n'aurait pas voulu. Le faire connaître, bien sûr, aussi à la personne de confiance. Une notion qui a été introduite là uniquement en 2016, qui n'était pas en 2005, peut-être aussi une réponse politique à des demandes d'euthanasie difficile à assister. En tous les cas, une réflexion qui commençait à se faire en France et le législatif français nous a sorti la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Les sédations, on avait l'habitude d'en faire avant. Et moi, quand j'étais formée, une sédation ne devait être jamais qualifiée. On ne devait jamais dire sédation terminale, sédation légère. Voilà. Maintenant, on a la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, qu'est-ce que c'est que la sédation ? La sédation, c'est quand, avec un médicament, en l'occurrence, souvent l'omidazolam, qui permet d'induire un sommeil plus ou moins profond. À petite dose, c'est un médicament qui est anxiolytique. Il a calmé un petit peu les nerfs, les idées un petit peu d'anxiété. Et puis à plus grosse dose, il l'endort à différents paliers. Donc ça, c'est notre savoir-faire. Une sédation, c'est un état de sommeil profond, donc qui sera induit par les thérapeutiques. Donc la loi ouvre ce droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, pas n'importe quand, mais voilà. C'est-à-dire mettre dans ces directives anticipées et j'ai le droit à une sédation profonde et continue. Moi, oui, vous y avez le droit, c'est déjà marqué en fait dans la loi. Donc il y a des moments particuliers où on peut la demander. Beaucoup de gens arrivent avec ça en nous disant j'ai le droit à l'euthanasie, j'ai le droit à une sédation profonde et continue. Alors non, pas tout à fait. Hein, c'est pas la même chose, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est en cas de souffrance ou symptômes réfractaires. Donc, c'est-à-dire une souffrance, ça peut être une souffrance globale, une souffrance psychologique, une souffrance spirituelle. Un symptôme réfractaire, ça peut être une douleur, ça peut être un saignement, un vomissement plus important, et qu'on ne pourrait pas nous prendre en soin avec tout notre traitement. C'est-à-dire on a sorti tous les thérapeutiques qu'on pouvait. Et malheureusement, on a ce symptôme réfractaire qui est là, première chose. Deuxièmement, c'est les patients en fin de vie à court terme. C'est-à-dire que le pronostic vital est engagé dans les heures, journée à venir. Enfin, on est vraiment en extrême fin de vie. Et c'est après une procédure collégiale. Une procédure collégiale, ça veut dire qu'on voit qu'il y a, par exemple, une souffrance qu'on n'arrive pas à prendre en soin avec l'équipe. Donc, on se dit les uns les autres. On se réunit tous autour d'une table, une procédure collégiale. Hein. Tous les soignants qui ont en soin le patient se réunissent, ainsi que les paramédicaux, il peut y avoir le kiné, la psychologue. Chacun donne un petit peu son point de vue du patient, un peu comme vous l'avez fait. Chacun voit sa partie, ce qui va nous permettre d'appréhender au mieux ce mal-être, cette douleur, ce symptôme. Et donc là, chacun donne son avis, et puis on pose une question, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il faut faire une sédation, est-ce qu'il faut endormir le patient ? On fait le point sur ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant, les différences, que ce soit les médicaments, que ce soit psychologique, que ce soit tous les soignants, l'ergothérapeute, voilà. Chacun va donner son point de vue. Et là, si on décide qu'il va y avoir une sédation profonde et continue, soit on se dit, bah, on est assez serein avec cette décision, on va endormir le patient jusqu'à son décès. Soit on se dit, bah, on ne va pas lui faire appel à un médecin extérieur. Donc on t'appelle à un autre médecin qui n'a pas de lien hiérarchique avec le premier, qui vient donner son avis sur le patient. Et on peut encore faire appel à un deuxième médecin, encore pareil, qui n'a pas de lien hiérarchique avec les deux autres. Donc vraiment, on va dire, on éclaircit les choses au maximum par une objectivité pointue. Ce qui est important, c'est quand on fait une sédation, on maintient les antidouleurs, les soins de nursing jusqu'à la mort. C'est-à-dire les toilettes, les massages, les traitements contre la douleur, tout ça c'est maintenu jusqu'au bout. Et même j'ai envie de dire, c'est même souvent plus, parce qu'on fait. Alors, on a aussi besoin de prendre soin de la personne différemment. Une sédation profonde et continue, c'est pas un geste anodin. C'est-à-dire en tant que soignant, moi quand je prends cette décision-là avec l'équipe, personnellement je reste avec l'infirmière, parce que c'est pas moi qui ai fait les injections de produit pour endormir le patient. Parce que j'endosse aussi cette responsabilité-là. Je sais que le patient, de facto, va être moins en communication avec sa famille. Il y a un moment qui, nous, quand on sédate un patient, le temps qu'on passait avec le patient, il est tout autant, et encore plus parce qu'on a tout ce temps d'accompagnement de la famille, parce qu'on ne sait pas combien de temps les choses peuvent durer. On n'accélère pas la mort va survenir, on le sait dans les heures, dans les jours à venir. On fait juste que cette mort soit apaisée, sereine, parce qu'avec nos thérapeutiques, ben, aujourd'hui, on n'y arrive plus. Voilà. Donc quand on voit ça dans la loi, comme ça, c'est la chose. La réalité, c'est que c'est pas anodin et c'est un geste qui nous engage, nous aussi soignants, dans cet accompagnement qu'on veut. Donc, pas de droit à l'euthanasie ni au suicide assisté. L'euthanasie, c'est quoi? C'est je veux provoquer intentionnellement la mort de quelqu'un. C'est un homicide en France, hein, on va être clair. Homicide, soit par un acte, je passe un produit, un cocktail monotop, ou soit je vous dis de faire quelque chose. Il y a une infection, je ne la prends pas en charge, ça va évoluer tranquillement à son compte. Soit par omission, soit par vraiment acte, c'est la même chose. Hein. Un peu comme le mensonge en fait, hein. Soit je dis quelque chose de faux, soit je dis quelque chose, mais on reste quand même. La finalité du geste et l'intention dans l'euthanasie, c'est du truc. Donc, homicide en France, ouais. La loi, c'est ce côté-là. Où vivent les soins palliatifs? Où est-ce qu'on peut vivre, être accompagné en fin de vie en France? Alors, nous, l'unité, moi, je travaille dans une unité de soins palliatifs. C'est à Malétroit, peut-être que certains la connaissent, peut-être oui, avec une ville d'Augustine. Donc, c'est une unité de 10 lits. On couvre tout le secteur faible de santé. Donc, il y en a une à Lorient, il y en a une à Redon. Il y en a une à Rennes. Alors, vous le voyez, nous, on va jusqu'à Pontchâteau. Vous voyez le territoire, quoi. On a 10 lits. Hein. Donc, on est vraiment le centre phare du soin palliatif. L'unité de soin palliatif, on a la vocation d'accueillir des patients les plus complexes. Les douleurs les plus complexes, les symptômes réfractaires les plus complexes, les souffrances morales, spirituelles les plus complexes. Par contre, de ce rôle phare, on travaille avec tout un réseau. Donc, on donne beaucoup d'avis aussi. Pour orienter les autres personnes, parce qu'on ne voit pas tout dans l'idée de soins palliatifs. C'est clair. Au domicile, par exemple. On peut être en soins palliatifs au domicile. On est suivi notamment par une équipe mobile de soins palliatifs. Parfois avec l'achat des hospitalisations à domicile. L'hospitalisation à domicile, par exemple pour Val, c'est l'unité d'activité sociale. Ils vont, je crois, environ 110 patients en charge. Et du coup, il y a un médecin et il y a toute une équipe derrière, soit libéraux, soit le soignant de l'HAD, l'infirmier, aide-soignant, psychologue, kinésithérapeute, tout ce qu'on veut, avec une prise en charge comme à l'hôpital, avec l'appui du médecin généraliste, et puis l'équipe mobile, donc c'est l'équipe mobile du CHDA qui passe chez les gens, avec un médecin spécialisé et une infirmière pour donner des avis, rééquilibrer le traitement, et puis nous demander aussi nous. Que les gens viennent être hospitalisés chez nous si besoin. En hospitalisation, donc, il y a aussi des lits identifiés soins palliatifs qu'on trouve dans des services qui accompagnent souvent un nombre important de personnes en fin de vie, soit des services de gériatrie, on appelle ça des disques, gériatrie ou oncologie en gros. pareil, ils nous demandent des avis et on peut aussi prendre les patients quelques temps pour rééquilibrer les traitements et après les envoyer soit dans l'ambulatoire ou dans d'autres. Pour vous donner une idée, nous, à l'unité de soins palliatifs de Malais 3, j'avais pas pensé de vous dire, mais je veux dire, en fait, 70% des patients qu'on accompagne à l'unité, c'est des maladies cancéreuses et cancers. Les 30 autres pourcents, on a des maladies neurodégénératives, par exemple la maladie de Charcot, des maladies aussi comme des maladies d'Alzheimer qui sont évoluées avec des personnes en train de vivre. Et puis tout ce qui va être défaillance d'organes, l'insuffisance cardiaque terminale, l'insuffisance intestinale, etc. Donc voilà. Sur nos patients, on en fait sortir environ 35% à domicile. C'est-à-dire, on ne vient pas mourir dans les soins palliatifs. On a 35% des patients qui rentrent chez eux ou en EHPAD. Et puis, on a aussi la possibilité de faire des hospitalisations de répit pour les aidants. On a beaucoup de patients qui sont à domicile et qui reviennent chez nous 2-3 semaines pour rééquilibrer les aides, rééquilibrer les prises en soins. Et puis, faire un peu de répit pour les aidants parce qu'on a un aidant aidé, voilà, pour être aidant, parce que c'est toujours pas aidant. Donc voilà, donc l'unité avec ses vocations d'accueillir les patients les plus complexes. Patients complexes ou très instables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tous venir mourir à l'UST. Ce serait bien, mais non, c'est impossible. Donc, l'UST de Malais 3, clinique des Augustines. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà notre technique. Alors, le patient, voilà, patient au cœur, comme vous voulez, et en cœur. C'est-à-dire que vraiment, on travaille en interdisciplinarité. Ce n'est pas de la pluridisciplinarité, c'est vraiment, on est en interaction tous les soignants ensemble. C'est le service, on boit le plus de café, on mange le plus de chocolat, parce qu'on est constamment en train d'échanger sur notre vision du patient. Parce que c'est de là que va naître la rencontre et la richesse de notre prise en soin, parce que vraiment, on interagit des uns avec les autres. Donc, on a les professionnels médicaux dans l'unité, donc un classique, un médecin, l'infirmière, l'ex-soignante. On a beaucoup d'infirmières et soignantes qui sont formées au toucher-massage, on en a qui sont formées à l'hypnose, à la communication thérapeutique. Donc et surtout, on a des soignants qui ont envie d'être là. Ça, c'est quelque chose de formidable. On a une équipe qui est relativement jeune, mais des voilà, qui ont vraiment la vocation à accompagner les patients en fin de vie et ça se ressent dans la prise en soin. On a des professionnels paramédicaux qui gravitent aussi sur le reste de la clinique, mais qui ont un temps avec nous. Donc le psychologue, la kinésithérapeute, le kiné en soins palliatifs, et ben c'est la mobilisation douce, de la lutte contre la perte musculaire. Et c'est dans, peut-être aussi réautonomisation, remarcher, pouvoir rentrer à la maison. L'ergothérapeute, ça va être adapté aux différents handicaps, par exemple le matériel pour manger, pouvoir être autonome dans sa toilette, dans ses déplacements, les positionnements en vie les plus adaptés. L'ergothérapeute, la diététicienne, qui nous permet de voir réajuster les besoins selon les patients. Hein, quand on a une maladie cancéreuse, ça consomme de l'énergie, en fait, on a un métabolisme qui est augmenté. Donc, adapter aussi les textures. Hein, en fin de vie, on a une appétence pour certaines textures, certains goûts. À la clinique, on a la chance d'avoir une filière coupe, c'est-à-dire que ce n'est pas la sélection, on a notre cuisine en interne. Et on peut demander, moi, ça m'est arrivé de voir au moment de Noël, il y a 4 langues de style, la cuisine appelle pour dire qu'il veut de l'ordre du style, c'est pour les soins palliatifs, quoi. Donc, on a vraiment, voilà. Vraiment attention à, voilà, au goût de chacun. Pour vous donner un exemple, hier, c'était un patient qui a le whisky, le droit c'est qu'il soit en bouche au whisky, moi ça ne pose pas de problème. Vous voyez, on a des soins de bouche au champagne, enfin, il y a des choses. On est vraiment, on s'adapte. C'est des petites choses, mais c'est ça qui redonne aussi le goût de vivre aux patients. Et on les regarde tout comme c'est des patients souvent qui ont des loups partout les médicaux. Donc là, on dit que vous avez de l'importance pour nous, on vous regarde, vous, personne, vous êtes comme moi, vous avez les mêmes choses que moi, en fait, vous vous reconnaissez dans votre dignité. Et ça va changer la prise en soin. L'orthophoniste aussi, qui fait des bilans pour la phonation, je pense notamment aux maladies neurodégénératives, hein, faire des bilans précoces, voir un petit peu mettre en place des modes de communication, parce qu'une fois que la communication sera trouvée, bah, si on anticipe, bah, c'est mieux vécu, c'est plus facile. Aussi, réadaptation des déductions. Donc, tout ça, on se. Aussi, les thérapeutes à médiation corporelle. Il y a plein de choses dans le service. L'art thérapeute, le musicothérapeute, le zoothérapeute, le hypnothérapeute et le sophrologue. Alors, je vais vous présenter un petit peu ces thérapies à médiation corporelle qui sont un petit peu différentes, un peu plus spécifiques aux soins palliatifs. Le but de toute cette prise en soin, c'est pas de proposer un catalogue aux patients d'avoir toutes les options possibles, c'est pas du tout ça. C'est vraiment toucher du doigt la singularité de chacun. Les gens ont un parcours souvent médical qui est lourd. Ils viennent aux soins palliatifs pour se poser. Et nous, le premier boulot, c'est de rentrer en communication avec eux. Donc, le médecin, de faire son boulot de médecin, c'est la base. Un patient qui est douloureux, un patient qui est en train de se mettre à terre, il ne sera pas en communication ni avec sa famille, ni avec nous. Enfin, donc, nous, c'est notre boulot de médecin, c'est la base. Et après, ce qui va se rajouter, ces thérapies-là, et se prendre soin, ça va être regarder le patient avec beaucoup de dignité, lui redonner cette dignité-là, le réautonomiser au maximum, et puis, avec ces thérapies, réouvrir des fenêtres qui ont été souvent fermées. Vous pouvez donner un concert, vous pouvez rentrer chez vous, vous faire avec le sport, vous pouvez coller dehors, vous pouvez vous faire avec lui, vous donner ça à l'autre plus. Ben nous, non, on essaie de rouvrir, adapter aux patients ces fenêtres-là. Parce que ça réimpulse aussi cette fonction de vie et puis la communication avec les familles et les soignants. Bénévole, très important en soins palliatifs. C'est un des rares services où la société civile peut rentrer dans un service de médecine, un service de cardiologie. Vous n'allez pas avoir un médicus qui vient visiter des patients à part exception d'un fin d'extérieur en fait. Je suis en train de voir. Service de mairie, hein. Donc, d'un peu gâté, nous trouvons les Augustines, je vais vous dire. Sur l'art thérapie dans le service, il y a des services de soins palliatifs qui ont des salles d'art thérapie. Nous, ce n'est pas le cas. On a un chariot d'art thérapie. Donc, c'est un chariot où il y a plein de matériaux, de la peinture, du sable, on va faire de la terre, travailler la terre. Et l'art thérapeute, donc, qui est un thérapeute, hein, c'est pas juste un bus qui vient avec ce petit ménage de poids de collage, hein, pas la petite section. L'art thérapie, ça consiste par le processus de la créativité artistique et dans une idée thérapeutique et humanitaire à lutter contre les troubles occasionnés par la maladie et les blessures de la vie. L'art thérapie, musicothérapie ou plastique, moi je parle de plastique, en fait, ça remobilise la partie communicative. Je vais être profondément handicapé, mais avoir encore des choses en moi, une créativité que j'ai envie d'exprimer. Je n'ai peut-être plus les mains, ou j'ai peut-être plus les jambes pour l'exprimer comme je le faisais avant, mais je vais pouvoir exprimer quand même cette partie saine qu'on remobilise avec, par exemple, l'art plastique. Ça passait, hein. En fait, les thérapeutes s'adaptent aux patients, hein, tout simplement. Ça offre aux patients plusieurs choses. Déjà, juste un détournement, hein, une vue, un moment à soi. Quelqu'un vient me rencontrer pour faire une activité avec moi, c'est un rendez-vous que j'ai, c'est moi qui vais voir. C'est valorisant. Ça renforce la confiance en soi. Créer ce lien aussi entre les sens qu'on peut ressentir et ce qu'on peut créer, le quotidien par l'œuvre que vous voulez créer. Parfois, c'est des choses insignifiantes, mais ça ouvre aussi, c'est un espace de parole aussi avec les thérapeutes. Il va nous derrière nous dire il y a un petit peu d'angoisse à cette situation. Ah oui, effectivement. On sentait qu'il y avait de la douleur, on se posait la question d'angoisse parce que les militants de la douleur n'agissent pas trop. Oui, ben, moi, je sentais de l'angoisse. Il m'a parlé de la relation avec son fils qui travaille et on savait qu'il y avait un fils qui viendrait d'un plein, je trouvais effectivement c'est un peu loin. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on construit. Est-ce qu'on n'appellerait pas finalement le fils un peu plus tôt? Et puis qu'il vient plus tôt parce que ça travaille madame. Donc c'est des non-dits parfois où on les exprime différemment. Et puis il y a aussi laisser cette trace, hein, un testament créatif, hein, des patients qui ont pu faire des choses, vous donner un petit-fils ou un petit-fille. Bon, bah, c'est dire autre chose que parler. psychothérapie. La musicothérapie, dans le service, on a Esther qui joue de la harpe. Ça peut être, moi, j'ai travaillé à Sainte-Périne avec le trompettiste qui faisait du violoncelle. Voilà. J'ai fait mon mémoire par mon début douleur avec le piano sur le ventre. Bref, donc la musicothérapie, donc là, Esther, elle a une harpe. Bon, je ne sais pas si il y en a qui ont déjà vu une harpe, mais elle l'est. Et bien là, c'est pas ça. C'est une harpe thérapeutique qui est plus petite, où elle peut faire autant qu'elle voudrait. Et à la fois, le patient peut aussi le prendre, la prendre la harpe sur lui, c'est assez rond finalement. Jouer s'il le fait, même faire des percussions sur la caisse. Et puis Esther, elle va s'adapter à ce qu'on a de Geneviève, dans du classique, je pense. Bon. Elle s'adaptera. On peut aussi faire appel à Esther pour détendre le patient pendant un instant douloureux. Esther, est-ce que vous pouvez venir demain matin? On a une toilette un peu complexe. Je pense par exemple une dame démente qui s'accroche au barreau. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il s'accroche au bord du lit? Au moment des soins, elle est très rétractée. Qu'est-ce que je fais? J'augmente les médicaments pour la détente. Est-ce que je peux peut-être essayer autre chose? Est-ce que je peux faire les deux? Voilà. Voilà. Ah, c'est une dame qui met bien la musique. Bon, on va la faire venir pendant la toilette. On met un médicament pour la détente. C'est la base. Mais, et donc, on voit, bah, tiens, avec la musique, la personne se détend. Le soin se passe bien. Moins d'attention. Et ça reste une thérapeute. Il va aussi nous dire ce qu'elle a ressenti. Mais quelques photos. Donc là, c'est Esther. C'était le moment de mail. Voilà. C'est Esther qui joue pour nous aussi, les soignants. Parce que les soignants en soins palliatifs, c'est un service qui est courant. Hein. On côtoie la mort, on côtoie la souffrance, la douleur tous les jours. Même si ce n'est pas du tout le cœur de notre métier, c'est soins palliatifs, c'est un service, c'est le service où moi j'ai vu le plus de vie. C'est là où j'ai vu des gens se marier. J'ai vu des réconciliations où on a des moments qui sont incroyables, très beaux. Donc voilà. Donc en tous les cas, ça permet aussi aux soignants de. Moi, je vois des soignants pendant leur pause, on souffle, on écoute la musique, on prend son petit café, on prend un petit temps de recul aussi, là, d'intériorité. On s'autorise avec la musique. Voilà. Et puis on a un service de déchronique juste à côté. Et puis là, il y a une petite dame qui arrive qui va aussi profiter du moment. Et puis voilà, ça, c'est un peu une chaîne de bienveillance. Là, c'est la photo de ce monsieur qui m'a accompagné au mois de Noël. C'est un monsieur qui avait une tumeur au RL importante qui lui prenait la moitié du visage avec un pansement du coup qui prenait la moitié, trois quarts de la lèvre. Une trouble de délocution majeure. Et c'est un patient. On lui a dit, qu'on avait compris le bruit, bon. Et puis on a entendu, il y a de beau, piano, on s'est dit, bon, on a un piano, ça fait bien. Donc quand le monsieur a pu se autonomiser un petit peu, ça c'est notre petit monde qui va faire ce là. Du coup, on l'a mis dans le piano. Et alors là, on était toutes, une émotion incroyable parce qu'il jouait d'une façon merveilleuse. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire qu'il avait ce corps qui était extrêmement fatigué. Qui avait beaucoup de mal à s'exprimer, mais alors on a réenclenché le mode autonome et ce qui fonctionnait en vie, on a remobilisé quelque chose qui fonctionnait, c'est-à-dire son art musical, sa façon de faire, et là on a eu des chants incroyables, même l'art thérapeute n'arrivait pas à suivre, à s'adapter à lui. Et à la fin, c'est lui qui s'adaptait à elle, tellement il était musicien. Alors que c'est un monsieur avec une tumeur, on posait la question sur sa compréhension des choses, enfin, incroyable, voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'on vit en compagnie de vie. Aussi, zoothérapie. Thérapie à médiation animale. Alors, pareil, c'est un thérapeute. C'est un infirmier qui est formé par la société de zoothérapie. Donc, c'est un intervenant professionnel en médiation animale qui intervient avec son animal. Alors, dans le service, ça s'appelle Guillaume, il a plusieurs chiens. Donc, il choisit son chien selon le jour parce qu'il ne va pas plus parler à n'importe quel chien. Enfin, n'importe quel chien ne pourra pas même exposer. Sinon, il avait la peau, mais je n'ai pas encore vu. Je vous avoue que moi, c'est quelque chose, je me suis dit, zoothérapie, je ne m'en fous pas trop, là. J'ai mon côté un peu cartésien, médecin, c'est bon, les paillettes, je m'en fous pas trop. Ben non. Ça coucher aussi. Le coucher, c'est un sens qui apparaît très tôt in utero et qui reste très tard. Donc, toucher l'animal, la chaleur, cette rondeur en fait, hein, bah, ça réactive des choses dans notre moi intérieur. Sans compter le chien, bah, il y a aussi le côté maison, parce qu'on est une maison de travailler. Mais la maison, il va m'aider. Donc, même pour les soignants, voilà, il y a un chien qui se promène, bah, c'est, voilà, ça met de la vie aussi. Et toujours cette possibilité avec un animal, peut-être, bah, d'aborder le patient différemment et d'ouvrir encore une autre fenêtre, et mieux l'apprendre aussi. On s'interdit pas beaucoup de choses dans ça. Ça, on va aller très loin dans la créativité, dans la vie très, très bien. Sophrologie aussi, c'est très intéressant. La sophrologie, ça parle peut-être plus, hein, peut-être qu'il y en a qui ont déjà fait de la sophrologie, travailler sur le souffle, sur certains mouvements, avec donc Céline, notre thérapeute, qui fait aussi des séances pour les familles. Et c'est parfois des séances aussi avec le patient et la famille. Et ça, c'est toutes les semaines. Hein. Et c'est vrai que ça apporte finalement une certaine communion aussi dans la chambre, avec le patient, la famille. Un temps de rencontre, d'apaisement, de relaxation, se lâcher prise aussi, hein. Faire des pauses au jour le jour, pas se projeter trop loin, voilà. Et être présent dans l'instant. Présent aussi fort, ce relâchement musculaire. Et aussi, c'est lui qui a pu aborder avec certains patients aussi des tensions que les patients peuvent avoir avec leurs proches ou même avec le personnel. J'ai mal vécu tel geste, voilà. Bah, des choses peuvent vous monter aussi par votre thérapeute et c'est très bien. Une hypnothérapeute. Si bien. L'hypnose, peut-être que ça parle aussi à d'autres, hein. C'est pas l'hypnose de spectacle, pas du tout. C'est un état de conscience modifié qui est naturel. C'est-à-dire qu'on peut, naturellement se mettre en hypnose. Par exemple, on sait que les golfeurs, par la concentration, bah, il y a un état d'hypnose, mais ouais, tu es en train de jouer. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils adhèrent vraiment à l'hypnothérapie. J'ai un souvenir aussi comme ça d'une dame qui avait un cancer de l'utérus évolué, qui avait des douleurs dues aux urines, en fait, qui lui provoquaient des fortes douleurs. On avait eu trois gynécos pour essayer de la sonder, qui n'avaient pas réussi à mettre une sonde urinaire. On avait deux médecins d'acné qui n'avaient pas réussi. Puis nous, ça la soulage totalement, en fait, parce que là, on était des thérapeutiques. Il a tassé un peu, entre guillemets, et il dit, mais c'est une avec une appréhension majeure de la patiente, hein, quand vous avez déjà eu mal quelques fois, la première fois, vous n'y retournez pas, malgré la réassurance thérapeutique. Donc là, on a fait égale à ce que le thérapeute. On a échangé en équipe, savoir est-ce qu'on y allait ou pas, poser cette sonde urinaire. On s'est dit, bah, le principe de la proportionnalité, quel confort pour gagner la patiente, peut-être ce moment qu'on va prémédiquer, c'est-à-dire qu'on a débuté des médicaments contre la douleur, mais il y a la tension telle, ce geste, c'était pas bon. On a pris aussi son avis, bien entendu, et puis elle a dit, bah, écoutez, moi je vais essayer de la mettre aux hypnoses, et puis vous allez poser la semaine dernière, on va voir ce que ça donne, parce qu'on tente, il y a bien dit, si ça fait mal, c'est machin, on arrête. Et là, et ben, madame est partie en vélo en 10 minutes. Gaëlle, c'est une dame qui faisait du vélo dans la campagne, en Valais 3. Et elle a reproché sur son vélo. La dame a pédalé pendant 10 minutes. Je pédale, je vends dans les cheveux. Elle était complètement au tard. On a pu poser la sonde urinaire. Il l'a soulagée, elle est rentrée à la maison. Vous voyez, hein. Mais moi, j'en étais, je me dis, mais super, quoi, enfin, guéri. Mais il faut oser. Tout en étant, voilà, on est bordé au niveau éthique, on ne peut pas mettre n'importe quoi, on se lève des douleurs, hein, mais voilà, je peux apporter des clous aussi. Sur certains points aussi qu'on peut avoir dans des histoires, voilà, le patient arrive aussi avec son passé, son vécu, ses blessures aussi, qui peuvent ressurgir en fin de vie, hein, et du coup, bah, voilà, nous, il faut qu'on arrive à appréhender parfois dans un temps qui est court, et puis on sera, on arrive à servir le patient. Service de monnerie. Roxane, c'est l'ancienne terre du service, c'est la fin qui est mère de la communauté, mère prière. Donc on a la chance d'avoir, maintenant c'est sœur Monica qui passe dans le service régulièrement, une petite présence qui est là, tranquillement. on a tarifié aussi notre aumônier qui vient donner sacrement des malades ou l'Eucharistie tout simplement. C'est vrai qu'on a la chance à la clinique, en plus les patients peuvent écouter la messe dans leur chambre, il y a un craquement dans le mur qui nous permet d'avoir la messe, mais les offices d'ailleurs. Donc on propose aux patients. C'est vrai que le fait que la clinique soit adossée à une communauté, bah, ça ouvre quand même un espace de parole privilégié pour toutes les questions de sens qu'on peut avoir en communauté. Après, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne se posait pas de questions de sens. Quand on parle de cette souffrance spirituelle, je pense qu'elle est très présente, d'autant plus aujourd'hui dans des générations plus jeunes, où la société s'est dit. Et je veux dire, décrédibilité. Enfin, on est moins croyant enfin, en général. Les gens sont un peu dans l'immédiateté. On a des gens qui sont sur des écrans. On se coupe de certaines valeurs. Donc, on commence à accompagner aussi des patients bah, qui n'ont plus de valeur. Et cette question de sens, bah, je peux vous assurer qu'en fin de vie, ça remonte et pas qu'un peu. Donc là, on n'est pas trop de tous ces professionnels pour pouvoir apprendre des patients et comprendre ce qui se joue. Donc, on vit, en fait, c'est vrai que les questions du sens de la vie, elles se posent en général quand on est amoureux, quand on a de l'amour, quand on contemple quelque chose de bon et quand on a une certaine souffrance. C'est un peu les trois peurs qu'on va pouvoir se poser dans notre vie pour poser ces questions de sens. Après, on a la chance de pouvoir exister avant, c'est une richesse aussi, hein, certains qui ont la foi, à vous poser ces questions. Il y en a qui m'ont arrivé en fin de vie, qui m'ont posé ces questions 24 heures, quelques heures avant. Il faut aussi être là pour les accueillir, pas se dérober. Enfin, voilà, on est là pour vous écouter, puis essayer d'apporter, sûrement pas des réponses toutes faites, mais en tous les cas, voilà, d'accompagner les personnes sur ce chemin. Donc c'est vrai que je pense que la clinique, c'est quand même à creuser là-dessus, où on peut discuter facilement ces questions-là. Qui ne sont pas la religion. La spiritualité n'est pas la religion. Hein. La spiritualité englobe la religion. On peut vivre sa spiritualité. Sa spiritualité, ça va être ses questions de sens, de valeur, cet appel à la transcendance, qui pour certains va passer par la religion, une relation à Dieu. Dieu qui peut prendre plusieurs visages. Pour les chrétiens, le visage du Christ, et cette religion, cette foi qu'ils vont vivre, va les aider à vivre cette spiritualité. Mais certains n'ont pas du tout d'éveil à quelque chose de supérieur et quelque chose de grand. Parfois, c'est pressenti. C'est je sens une présence dans mon cœur, je sens quelque chose. Mais le patient, s'il n'a pas quelqu'un en face, que ce soit un soignant, un bénévole, qui va lui renvoyer quelque chose ou l'aider aussi dans cette rencontre. Parce que, en tant que soignant, en tant que palliatif, on évolue, c'est-à-dire que c'est vraiment une rencontre. Chaque jour, moi j'y vais avec ce que je suis, ce que j'ai vécu, mes enfants que j'ai béni à l'école, enfin vous voyez, hein, j'arrive avec ce que j'ai vécu à la maison, à mon histoire, et puis bah, le patient il arrive avec son histoire à lui, et comment va jouer cette rencontre. Il y a toujours un peu, les questions de sens du patient notamment sont passées au feu de la rencontre avec le soignant, notamment, ou avec un patient. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut un temps pour avoir quelque chose pour essayer d'avancer et d'être un peu poli. Parce que d'être seul avec une question de sens, on a des signes de détresse spirituelle, de plus en plus avec des gens qui perdent une boue, des choses. Ça ressemble un peu à un syndrome dépressif, mais ça ne passe pas avec les antidépresseurs. Donc là, quelqu'un qui n'est pas bien, qui a une boue des choses, qui perd la valeur des valeurs parfois qui remet sa foi. C'est pas un psychiatre qui va faire la paix. Hein. C'est vraiment nous ce qu'on va mettre en place dans notre relation, dans cette rencontre, à l'autre, de rencontres de spiritualité aussi, qui vont faire avancer le patient. Il n'y aura pas de protocole fixé, c'est des rencontres en fait. C'est pas facile hein, d'être très spirituel, c'est pas facile de décrire par tout le monde pas. C'est pas de la physique, c'est pas de la matérielle. C'est l'intérieur de notre âme, notre intérieur. Donc voilà pour sa vie de monde. Et alors, ils sont précieux, ils sont bénévoles, très importants. qui sont en soins palliatifs, vraiment vécu comme un gage de non-abandon de la société pour les plus fragiles. La société va à la rencontre, on ouvre l'unité, on ouvre la chambre à la société. Le patient a le droit d'avoir des interactions, de parler de la société, de parler du quotidien, des choses qui ne sont pas la maladie en fait. Et ces bénévoles font un travail remarquable d'écoute. Beaucoup d'associations chamanes, notamment, qui est une écoute active, une écoute silencieuse. Et il y a aussi des bénévolats de compétences, de donner son temps pour exemple, là ça serait un petit peu moins commun, mais moi je suis parfait, il y a des bénévoles qui venaient promener les patients au marché le jeudi matin à l'étroit. Ça peut être, moi j'ai vu une petite grand-mère qui adorait cuisiner, donc elle a fait monter un fond de tarte des cuisines, et puis elle a touché des pommes avec le bénévole, et puis elle a rempli une tarte aux pommes. Et c'est. Ça paraît insignifiant, mais je vous assure, c'est vraiment des choses. C'est ça qui va faire. Ça va faire vraiment la qualité en fait, de la prise en soin et que le patient va s'y retrouver. En fait. Et puis, c'est des bénévoles qui participent au staff aussi. Ils écoutent hein, aussi ce qu'on peut dire du patient. Et puis, ils m'ont apporté leur pierre à l'édifice. J'ai vu ça, il m'a confié ça. Il faut voir propre à le patient, il ne va sûrement pas se confier au médecin. Il va se confier à la femme de ménage, à la petite présence qui va passer discrète. Et puis, nous, si on a cette information-là, ça nous fait avancer. Avec ce temps qui est précieux en campagne d'études, donc la perte du temps à reculer sur une chose qui est tout du tout, un peu mieux, pour aller à la système. Donc c'est bénévole. Voilà, je crois qu'il y a une bénévole peut-être dans le coin. Super. Vous êtes sur quelle association ? Voilà un peu ce que je voulais vous ressentir en tant que médecin, un peu l'univers, un peu vite. Donc, ça vous fait des questions un peu plus que je n'ai pas abordées. Ça peut être éthique, ça peut être légal, ça peut être un peu concret. Mon œil de médecin et moi, je me dis ça, mais après, voilà. Ah ah! Non, on a le temps.
Oui.
Quand on commence une sédation, on ne peut pas la lever pour dormir
à un moment
à la séance. Alors, si on prend la décision de prendre une sédation avant, j'ai envie de dire oui, on faisait volontiers. Aujourd'hui, une sédation profonde et continue, on ne la lèvera pas juste parce qu'on décide vraiment. On arrive en bout de. Il m'est arrivé il y a quelques années de faire des sédations. Parce qu'en fait, dans ce sommeil, le corps se met aussi un petit peu en repos. Ouais. Voilà. Et puis voir un petit peu comment relever au bout de. Enfin, beaucoup de temps, hein, peut-être 48 heures. Voir comment le patient émerge, et puis finalement, au bout du conduit, c'est quelque chose qui s'est joué de positif, et d'animer. Ou des sédations qui avaient été faites, moi je récupère des patients qui avaient été faites pas à bon escient. Donc là, oui, tu vois de lever la sédation et de voir un peu comment le patient va émerger et réinviter les choses. Pour voir si c'est un coup ou pas. Non, c'est pas. Si ça peut se faire, c'est pas la sédation pour tous les contours. C'est-à-dire qu'on pourrait être amené à mettre quelqu'un dans une phase de sommeil quelque temps, mais pas longtemps, parce qu'il faut savoir que si le patient est endormi, il se mobilise moins, il y a des risques d'infection pulmonaire majeure, il s'agit plus de cutanée, donc les patients fragiles, voilà. Moi, ça m'est arrivé chez une dame qui était en grosse souffrance, c'est une psychose, hein, qui est relevée de la psychiatrie, une grosse souffrance morale et une histoire personnelle très compliquée. Vraiment, où j'avais des médicaments, des neuroleptiques à dos de cheval, on va tout souffler et on est délétère en fait, on est iatrogène, donc essayer de diminuer et puis de l'endormir 48 heures, et effectivement, elle est réénergée un peu plus calme, on a pu prendre une prise en soin. Mais c'est vraiment des exceptions. Voilà. Oui. Vous avez déjà eu ce moment de dire au revoir à tout le monde. Il y a quelque chose qui me fait comme ça du jour au lendemain. Devant toute demande de sédation, première chose, il n'y a pas d'urgence. Et là, il y a urgence à en prendre la souffrance du patient et à prendre en charge ses symptômes, ses douleurs. Mais tout ça à plat déjà. Un instant d'expertise. Merci. Et pour les patients, mais donc, sur la douleur, je suis contente de votre compréhension. Ça va vite. Il n'y a jamais d'urgence pour ces demandes de sédation, comme les demandes de sédation de payeur. Il y a quand même beaucoup de patients qui sont dans ce monde-là. Il y a des gens qui ne prennent pas, qui ne se rendent compte. On va ensemble, on gère les douleurs, les symptômes de la terre, ce qui ne va pas chez vous. On va les faire. Et puis, on va faire une sédation à vous. Il y a deux choses qui font que les directions insistées ne sont pas appliquées. Nous sommes aux médecins. La première, c'est en cas d'urgence ou de doute diagnostic. Quand j'interviens dans un service, dans un patient, je vois directement anticipé, le commandant, je ne sais pas quoi, je ne connais pas le patient, je ne suis pas sur ce qui ne pas avoir pas ses données. C'est évident que les directives ne s'appliquent pas, moi, je suis en urgence, j'interviens en urgence. Le deuxième cas, c'est quand les directives anticipées ne sont pas adaptées aux patients. Moi, c'est des patients qui me disent. Mais je ne vais pas mourir étouffé, je vais être endormie pour ne pas mourir étouffé. Ah, il y en a tous sur un syndrome hémorragique, donc moi, je veux dire, les patients sont là, ils ne veulent pas. Hein. Oui, mais il ne va pas partir comme ça, donc il faut. Ces directives, elles sont intéressantes dans le sens où elles engagent une discussion avec un médecin, le patient, et des probables complications d'une pathologie. Et le jour où vous aurez une maladie, ou quelque chose qui ces directives, elles se réorienteront, cette volonté de sédation qui est probablement de vouloir dire au revoir à tout le monde et d'avoir ce temps finalement de. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant réversible en fait? Qu'est-ce que vous en attendez?
Est-ce que vous voulez avoir
il y avait des murailles qui protégeaient un château Et ils avaient des orphelins. Le sous-chasseur avait été attaqué. Et moi, ils ont pris les armes, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On peut tuer cet attaquant, mais comment on va faire au final? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tue l'attaquant? Mais on tue quelqu'un au final, même si c'est pour protéger les orphelins. Enfin, voilà. Et la question a été de se dire, qu'est-ce que je fais quand je veux faire un geste qui n'est peut-être pas bon, mais qui a une bonne finalité? Je tue quelqu'un, mais c'est pour protéger les orphelins derrière. Donc, la théorie du double effet, elle dit quoi? Elle dit qu'aujourd'hui, on peut utiliser des médicaments, des thérapeutiques, typiquement la morphine, c'est assez simple, qui peuvent avoir un effet bénéfique sur le patient, soulager le douleur, mais qui peut accélérer le décès. On peut utiliser la morphine dans ces situations-là où les patients ils ont des insuffisances d'organes, ils sont très fatigués, ils ne vont probablement pas les éliminer aussi bien que moi aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a un risque de surdosage, il y a un risque peut-être que le patient va décéder d'un petit peu. Qu'est-ce qui lui permet d'utiliser? Il y a trois choses. D'une part, c'est la proportionnalité. La morphine bien utilisée par un professionnel qui sait l'utiliser, le risque il est minime de diminuer un petit peu la durée. C'est vraiment minime. Le principe de proportionnalité est respecté. Le deuxième, c'est l'intentionnalité. Mon intention, c'est pas de tuer le patient. Hein. L'intention, c'est de soulager. Il y a une grosse différence dans mon vécu à moi, de soignant. Et la troisième chose, c'est la non-conditionnalité. C'est-à-dire que je suis pas obligée de tuer le patient pour le soulager. Et ça, c'est les trois piliers sur lesquels on peut le vécu. Donc, je peux utiliser certaines thérapeutiques, effectivement, qui vont m'aider à soulager le patient, mais qui ne doit pas tuer, mais qui n'est certainement pas. Et du coup, la loi Leonetti et la loi Leonetti réappuient cette théorie du bébé avec la possibilité d'utiliser des médicaments, on parle des morphiniques, mais il y a beaucoup de médicaments aussi dérivés d'anesthésie qu'on utilise aujourd'hui très finement, on est spécialisé dedans, pour soulager les douleurs. Aujourd'hui, on soulage les douleurs avec 99,99999%. On peut aller très loin dans les prises en soins, on met des cathéters intrathécaux, comme des cathéters un peu plus automates, si vous voulez. Il y a des pompes sous-cutanées, le patient peut directement se décharger des antalgiques au niveau de la base, les rentrées aussi au niveau de la base. Et le patient peut se mettre un peu important de molécules qui agissent très bien sur des douleurs qu'on n'arrivait pas à gérer autrement. Donc on va vraiment loin dans la prise en soin. Et ça, c'est la base, c'est-à-dire si on ne prend pas en soin la douleur, le symptôme ne vous a pas, votre patient sera vraiment de la peine de présenter la thérapeute la seule chose. Et les médecins, c'est vrai, sont de mieux en mieux formés. moi, à mon époque, qui n'est pas si lointaine, 10 ans, une dizaine d'années, le cursus travail et douleur, c'était 2 heures.
Voilà.
Un peu léger. Oui, tout à fait. Donc, quand vous avez vu ça, bah, voilà, vous prenez dernière. Donc, les choses évoluent. C'est pour ça qu'aussi je suis là aujourd'hui, c'est faire diffuser en fait ce qui existe et que, savoir aussi ce qui existe pour y avoir du tout.
Oui.
Alors, les familles, c'est pas compliqué, c'est 4 heures de mon après-midi. C'est-à-dire que, on reçoit les familles, en général, deux soignants. On aime bien voir le médecin. Le médecin est souvent une aide-soignante ou une infirmière. On fait des entretiens à volonté de soignants, ce qui nous permet de croiser aussi mon regard. Les familles, c'est la moitié du temps de l'accompagnement. On a déjà des locaux spécifiques pour les familles. On a un salon, le salon Maria, qui est pour les familles. On a notre salle à manger. On a un studio des familles où les gens peuvent rester accompagner leurs proches et dormir sur place. Soit on met un lit dans la chambre, soit il y a ce studio à disposition des familles. Et puis ces hospitalisations de répit qui représentent quand même presque 20% de nos hospitalisations. C'est-à-dire, c'est vraiment l'appel de l'aidant. J'accompagne mon mari, là j'en peux plus. Il est tout donné. Ça fait des situations moralement très difficiles. Donc, très bien, vous allez souffrir. Voilà, on va prendre soin de votre mari, on va essayer de rattraper les aides aussi, et puis les soins, et après on en sera. Les familles, c'est notre allié. Tout ce qu'on propose, psychologie, sophrologie, on propose aussi aux familles. La psychologue du service, elle doit faire au niveau de son temps, elle doit faire 70% des patients et 30% des familles. Donc on propose le métier, la fille qui passe, le mari, voilà, chacun, il y a ce suivi. Et puis il y a aussi ce suivi après. C'est-à-dire que les familles, dans le service, on a des temps forts aussi autour des familles. Deux fois par mois, c'est le mercredi après-midi, on fait le café des familles. On a une salle à manger au milieu de l'unité. On invite en fait les familles, les patients hospitalisés à ce moment-là, à venir boire un petit café avec nous, les soignants. Moi, il y a des soignants qui restent en civil après leur service, puis on discute de la vie, de tout et rien. Et il y a souvent des rencontres entre des familles assez improbables, on n'aurait pas parlé une cacahuète ouais, sur ce que les deux ne seraient jamais rencontrés. Et puis des soutiens, des liens qui perdurent après, pour vous dire. Et on a aussi la soirée des endeuillés qu'on fait une fois par an, qu'on va faire au mois de juin, où on envoie en fait une invitation à toutes les familles qui m'ont accompagné un proche durant l'année à venir participer à une soirée. Donc, on ne vous oublie pas. Je pense à vous, c'est des lettres qui sont faites manuscrites. Et je peux vous assurer que ce n'est pas en fait juste la lettre, c'est qu'on pense. D'ailleurs, les soignants qui rédigent les lettres ont choisi aussi les patients qui nous ont aussi manuscrites. Hein, c'est mon pareil. On fait cette lettre, on l'envoie aux familles et on a des soirées, on est une centaine, un peu plus, 120, qui viennent assister à cette soirée, on lit des textes et chacun met une fleur qui représente le proche. Si la famille ne vient pas, c'est un soignant qui va apporter une fleur pour la personne décédée. Donc vraiment, les familles, elles sont là. Et je crois accompagner et que les détons d'entretien. On prend volontiers avec chacun et au bout de notre temps. On est amené à faire des sédations avec la famille qui est dans la chambre. Et à côté, je prends la main, et voilà, et c'est comme ça, je fais, voilà, ce sommeil plus fond. On encourage les familles à toucher le patient, à le parler, à raconter ce que fait le petit-fils, ben, il n'a pas fait ce qu'il veut avoir, à raconter un peu le quotidien, finalement. Parce que ces voix, ces sons connus, ben, sont aussi rassurants. Oui? C'était... Surtout, l'accompagnement des familles, il est aussi est fondamental pour qu'ils vivent bien leur deuil. Et puis aussi, il y a des situations comme ça où la mort est tellement aussi, on a des images, c'est des jeux vidéo, c'est des films horribles, où on voit des morts violentes, beaucoup. Et là, je me rappelle le film d'une patiente qui dit mais si tout le monde savait qu'il pouvait mourir comme ça, il y aurait la mort. Bah oui, en fait, la mort peut être paisible. La mort peut être sereine quand elle est préparée, accompagnée. Et parfois, il y a des fausses idées, il y a des peurs, notamment quand on veut la pathologie. Parfois, on a des médecins plus ou moins bien intentionnés, ou plus ou moins tactes, qui disent des choses dans toutes les complications pour rentrer chez vous. Puis en fait, ça se passe parfois pas comme on a pu le prévoir ou comme on a pu le prévenir. Chaque personne est différente. Donc, je trouve aussi de rassurer, d'informer et vraiment d'accompagner le patient. Oui. Oui.
À la clinique, on meurt beaucoup dans les deux statistiques. Mmh. Ah, voilà. C'est un vrai qui est une diffusion de la clinique.
J'ai de partir parce que je suis plus quel est le nom du médecin qui a fait Marine, Marine. Merci beaucoup.
Et pour lesquels,
avoir
besoin
d'une
Non,
c'est fini.
Il n'y a pas une sœur qui doit parler.
Ah, sœur Roxane n'est pas venue.
Oui.
Bon, j'arrête l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement.
C'est la pire liaison qu'on ait eue.
Oui.
C'est dommage, non?